Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Noëlla Luzitu Kabambi.
La journée mondiale de la liberté de la presse, c'est ce 3 mai. La coalition des médias libres, composée des ambassades de l'Allemagne, du Pays-Bas, du Canada et de la Grande-Bretagne, affirme s'engager aux côtés des journalistes congolais afin de les aider à produire une information libre, indépendante et pluraliste. Propos tenu hier en marge de cette journée au cours d'un dîner avec les journalistes congolais. Et à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse, l'invité de ce journal, c'est Mustapha Mulonda, président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Beni. Les minerais produits à Rubaya ne profitent toujours pas à l'État congolais. Cette cité minière du territoire de Massissi au Nord Kivu est depuis le 30 avril dernier sous le contrôle du M23 appuyé par le Rwanda. Dans ce journal, nous ferons un coup de projecteur sur cette cité où sont produits notamment coltan, manganèse, cassitérite et tourmaline. Présentation hier à Kinshasa au forum de la Fédération des entreprises du Congo FEC de plus de 400 jeunes récemment diplômés et lancés sur le marché de l'emploi. Ils ont suivi une formation sur le programme Tech@Work initié par l'Organisation internationale des employeurs OIC en collaboration avec l'Office national de l'emploi. Bonjour à tous. Célébration ce vendredi 3 mai de la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La coalition des médias libres affirme s'engager aux côtés des journalistes congolais afin de les aider à produire une information libre, indépendante et pluraliste. Composée notamment des ambassades de l'Allemagne, du Pays-Bas, du Canada et de la Grande-Bretagne, cette coalition a organisé hier jeudi dans la soirée un dîner avec la Corporation de la presse congolaise. Au cours des échanges avec les journalistes, les ambassadeurs accrédités en RDC se sont imprégnés des conditions difficiles dans lesquelles les journalistes congolais exercent leur métier et ont promis de s'impliquer pour la liberté de la presse en RDC. On écoute l'ambassadeur de l'Allemagne et président de la coalition des médias libres. Ingo Herbert est au micro de Michel Kifindangoy.
Pour une démocratie, la presse joue un rôle important. Ça veut dire aussi, dans notre temps, pour la presse, il faut avoir des conditions favorables, l'accès à l'information, des conditions de travail sans menace. On est, comme coalition, engagé pour promouvoir la liberté, mais ça veut dire également dans les pays où la liberté de presse, des médias, est en danger, on s'engage. Je vous donne un exemple. Dans le cas de Stanis Bujakera, on a suivi comme coalition, les procès, et on a fait, par exemple, une déclaration. En plus, on a des programmes pour les aider, de donner même aux journalistes la possibilité de séjourner dans les pays de la coalition, de donner l'exil aux journalistes dans nos pays.
Et puis, dans un message rendu public à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'Organisation des Nations Unies salue le travail extrêmement précieux qu'accomplissent les journalistes et les professionnels des médias pour que le public soit informé et mobilisé. Sans fait, nous ne pouvons lutter contre la mésinformation et la désinformation. Sans obligation de rendre des comptes, nous n'aurons pas de politique solide. Sans liberté de la presse, nous n'aurons aucune liberté, écrit son secrétaire général. Pour Antonio Guterres, la liberté de la presse n'est pas un choix, mais une nécessité. Notre journée mondiale de la liberté de la presse est très importante. Je demande donc au gouvernement, au secteur privé et à la société civile de se joindre à nous à l'heure où nous réaffirmons notre engagement à protéger la liberté de la presse et les droits des journalistes et des professionnels des médias partout dans le monde, conclut-il. Notez que sur le plan international, la journée mondiale de la liberté de la presse 2024 est placée sous le thème « Crise environnementale et urgence du journalisme », autrement dit, l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Coltan, manganèse, cassitérite et tourmaline sont parmi les minéraux extraits dans la zone minière de Rubaya. La cité minière de Rubaya, située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Goma, dans le territoire de Masisi, est tombée entre les mains du M23 le 30 avril dernier, appuyée par l'armée rwandaise. Les minéraux produits à Rubaya ne profitent pas toujours à l'État congolais. Ils sont exploités et exportés illégalement par certains groupes armés qui organisent le trafic vers les pays voisins, ce qui constitue un manque à gagner important pour les trésors publics. Coup de projecteur sur ces sites avec vous, Denise Loukesso.
La cité minière de Rubaya, réputée être un centre d'exploitation et de négoce des minéraux étroités, est connue pour ses multiples richesses en cassitérite, coltan, tantale et autres pierres précieuses importantes. Depuis quelques temps, la mine de Rubaya devient de plus en plus une proie pour divers groupes armés qui l'exploitent frauduleusement. Elle est passée entre les mains du M23 mardi. La mine de Rubaya est le poumon économique du secteur minier au Nord Kivu en termes de recettes provinciales. La production de coltan à Rubaya représente en elle seule 50% de la production nationale, révèle la présidente provinciale de la Chambre des mines. Suite à l'occupation illégale de cette mine, ce sont des recettes significatives qui échappent ainsi au trésor public, dit Yvette Mwanza. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer les pillages, l'exploitation et la commercialisation illicite des minéraux de ces sites. Certains observateurs pensent que l'occupation de la cité minière de Rubaya par les M23 ouvre ainsi la voie à une exploitation artisanale illicite. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Sur le terrain des affrontements, après l'occupation mardi de la cité minière de Rubaya par le M23 et l'armée rwandaise, la situation reste volatile dans le territoire de Masisi. Si une certaine accalmie règne à Rubaya, les rebelles avancent à présent vers d'autres villages, notamment en direction du chef-lieu du territoire. La population se dit inquiète de cette évolution de la situation, à en croire la société civile de Masisi. Bernard Danyangi.
C'est après de violents combats qui les ont opposés toute la journée mardi à l'armée congolaise et ses alliés locaux que les rebelles du M23 ont conquis Rubaya. Du coup, ces rebelles, soutenus par l'armée rwandaise, étendent leur occupation au groupe Makibabi et Mutanda dans le Masisi. Pour le rapporteur de la société civile et du territoire de Masisi, ces rebelles avancent depuis mercredi vers Katale, direction Masisi Centre, et vers Ngungu et Kinigi respectivement, en direction des groupements Ufomando 1 et Katoi. Ce qui inquiète, dit Telesfor Mitondeke.
Les terroristes rwandais, ils ont pris là de plusieurs la direction de s'agglomération du groupement Mufuni Kibabi, notamment à Lukofu, Kacheke, Tchougi, plusieurs autres entités. Un déplacement de population a été signalé. La situation demeure très préoccupante. L'ennemi ne cesse de s'approcher vers les chefs-lieux du territoire de Masisi. Et il faudra que les dispositifs sécuritaires soient pris. Il faut juguler cette crise qui ne fait qu'enterrer vivant de milliers de populations.
Après l'occupation de Rubaya, dont la majeure partie de la population n'a pas fui, nos sources redoutent une ouverture par les rebelles de sites miniers à une exploitation artisanale illicite. Les mines de Rubaya étant les plus riches en coltan, manganèse, cassitérite et tourmaline de la région. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Toujours au Nord Kivu, la fondation américaine Bridgeway, qui soutient les opérations Shuja contre les rebelles des ADF, a lancé depuis le mercredi 1er mai à Beni une campagne de sensibilisation des combattants ADF. L'objectif est de les amener à déposer les armes, à se rendre pacifiquement et à libérer leurs otages. Cette campagne, dénommée « Rentre à la maison », consiste à distribuer par le truchement d'anciens membres du groupe ADF des dépliants et aussi à lancer des messages audio à travers des haut-parleurs appelant les combattants actuels à se rendre. Selon Jérémy Sekombi Katondolo, chef de mission de la fondation Bridgeway à RDC, l'objectif est de réduire sensiblement les effectifs des rebelles des ADF, mais aussi d'obtenir la reddition de leurs dépendants. Il est joint au téléphone par André Kitenge.
L'objectif visé par cette campagne est de réduire au maximum possible le rang des ADF et aussi, vous savez, la plupart des gens qui sont dans ce groupe, c'est des gens qui ont été soit kidnappés ou trompés pour rejoindre ce groupe. Alors, nous pensons que si on arrive à sortir au maximum possible les combattants et aussi les dépendants de ces combattants, on peut arriver à réduire tant soit peu la menace et la force de ce groupe. Et c'est pour cela que nous demandons à la population d'accueillir ces rendus, parce que c'est des gens qui ont été dans nos communautés, c'est des gens qui, d'une manière ou d'une autre, se sont retrouvés là sans leur propre vouloir. Alors, à la population de ne pas faire la justice populaire, mais plutôt d'envoyer tous ces rendus-là vers le service spécialisé afin que eux puissent juger de leur sort.
Nous en parlions dans le sommaire. Plus de 400 jeunes diplômés sont lancés sur le marché de l'emploi à l'issue d'une formation sur le programme Tech@Work, initié par l'Organisation internationale des employeurs, OIC. Ils ont été présentés hier jeudi à Kinshasa au cours d'un forum à la Fédération des entreprises du Congo, FEC. À travers ce programme, l'OIE et ses partenaires, dont l'Office national de l'emploi, ONEM, permet à ces jeunes d'acquérir des compétences techniques et professionnelles pour leur permettre d'évoluer dans le marché du travail moderne. Les détails dans ce reportage de Murphy Fika.
Issus de plusieurs filières, ces jeunes diplômés en quête de l'emploi ont, durant 9 jours, bénéficié des thématiques basées sur le mentorat et la promotion de l'entrepreneuriat à travers le programme TechWork. Maître Amadou Sako, conseiller Afrique de l'Organisation internationale des employeurs, révèle ici les avantages du dit programme.
Ce programme concerne tous les jeunes qui ont entre 16 et 35 ans, qui sont domiciliés en République démocratique du Congo. Donc, en plus de la formation, que nous exposons leur profil à notre membre qui est la Fédération des entreprises du Congo. Donc les entreprises qui sont membres de la FEC savent maintenant que des jeunes ont été formés, ils ont accès au profil de ces jeunes.
Les jeunes bénéficiaires de cette formation sont désormais porteurs des compétences que les patronats congolais recherchent, rassure le directeur général de l'Office national de l'emploi, Fanon Béa.
Les étudiants sont directement employables. Donc quand on les présente devant une entreprise, il est difficile qu'une entreprise refuse de les recruter. Nous rentrons là dans les défis de la compétence que le patronat recherche, d'où la présence de la FEC aussi.
Les participants disent attendre un accompagnement de la part de la Fédération des entreprises du Congo. Le programme TechWork a été lancé en avril 2023 par l'OIE dans le but de créer 6 millions d'emplois d'ici 2030 en RDC.
D'autres jeunes, les jeunes entrepreneurs du Congo, réunis au sein du collectif des entrepreneurs, demandent au gouvernement de les considérer comme partie prenante aux différents dialogues économiques afin de promouvoir des jeunes millionnaires. Ils le font savoir dans un mémorandum adressé au président de la République et remis hier jeudi à Kinshasa à la première ministre Judith Suminwa. Dans ce document, ces jeunes fustigent également la tendance à accorder le monopole à la Fédération des entreprises du Congo, FEC. On écoute donc Israël Mbouy, le président de ce collectif, dans cet extrait que nous propose Grâce Hamzati Massanzi.
Vous savez, depuis plusieurs générations, notre pays, même si cela la plupart des gens ne veulent pas le dire, nous vivons dans un pays oligarchique. Sous le plan politique, le pouvoir politique est entre les mains de quelques personnes seulement. Mais par malheur, le pouvoir économique est pris en otage par les mêmes familles. C'est ce que nous sommes en train de fustiger. Notre dialogue permanent avec le gouvernement au niveau de l'ARSP fait bon chemin. Mais là, nous voulons aller au-delà de ça. Nous voulons parler avec le gouvernement. Nous aimerions que désormais, qu'on nous prenne comme partie prenante au dialogue économique de notre pays. Pendant plusieurs années, il n'y avait que la FEC qui était considérée comme telle. La FEC n'a pas le monopole du marché. La FEC n'a pas le monopole d'entretenir les PME, les PMI. Il y a plusieurs structures, d'ailleurs, nous sommes constitués en une chambre de commerce. Désormais, nous demandons au gouvernement là derrière de faire avec nous.
Devant le niveau de l'enseignement supérieur au rabais en RDC, l'Université catholique pense apporter une solution en dégageant des pistes de solutions qui permettront aux futurs étudiants d'être des hommes outillés et capables de défendre leur enseignement. C'est l'objectif du colloque qui a ouvert ses portes hier jeudi à l'Université catholique au Congo, organisé par l'Association des universités et instituts supérieurs catholiques au Congo. Ce rendez-vous scientifique s'articule autour du thème « L'enseignement supérieur catholique au service du développement humain intégral ». L'ouverture des travaux s'est déroulée en présence du cardinal Fridolin Mbongo, des éminents professeurs d'université et des étudiants des universités catholiques. Enoch Matondo pour un reportage.
Pendant 3 jours, les participants aux travaux vont jeter un regard rétrospectif du système éducatif du passé précolonial, colonial et post-colonial afin de chercher des solutions aux maux qui minent l'enseignement en République démocratique du Congo. Dégage également des pistes susceptibles d'aider les universités catholiques d'être un véritable lieu de réflexion. Pour le cardinal Fridolin Mbongo, l'Église catholique veut être le premier partenaire de l'éducation en République démocratique du Congo.
En ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo, on a besoin d'indiquer ici que l'Église catholique se veut, si pas la pionnière, en tout cas le partenaire de première heure et de premier rang de l'État congolais dans le domaine de l'éducation en général et de l'enseignement universitaire en particulier. Pour vous en convaincre, pensez à la fille aînée de l'enseignement universitaire en République démocratique du Congo.
De son côté, M. Si, représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, a rappelé que la RDC est appelée à veiller à ce que l'éducation contribue à faciliter un dialogue avec tous et partout dans le monde.
L'aspiration au développement durable nous oblige à résoudre les problèmes et les tensions communs et à connaître un nouvel horizon.
Les travaux de ce colloque se clôturent le samedi 4 avril 2024.
Actualité internationale.
Dans l'est de la Birmanie, frappée par la canicule, une pénurie d'eau accable la population des camps de déplacés déjà fragilisés par le conflit civil. Depuis plusieurs semaines, une canicule historique enveloppe l'Asie du Sud-Est et la Birmanie, où le mercure a dépassé cette semaine les 48 degrés dans le centre du pays. Les difficultés d'approvisionnement en eau s'ajoutent à la crainte des frappes aériennes de la junte. Le début de la saison des pluies, généralement autour du mois de mai, devrait soulager les habitants du stress lié à l'eau.
L'invité.
À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée ce vendredi 3 mai, l'invité de ce journal, c'est le président de la section locale de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, à Beni. Mustapha Mulonda évoque à travers cet entretien la situation de la liberté de la presse à Beni-Boutembo et Lubero, région sous état de siège et touchée par l'insécurité. Il s'entretient avec Blaise Makassi. Suivez.
Mustapha Mulonda, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Quelle est la situation de liberté de presse à Beni, une région qui est sous état de siège et régulièrement touchée par l'insécurité?
Alors, la situation dans laquelle les journalistes travaillent à Beni, c'est une situation précaire parce que la ville de Beni et le territoire de Beni restent une entité en proie à des conflits armés. Puis, l'insécurité de Beni n'est pas comparable à n'importe quelle insécurité du fait que les ennemis qui sont dans les coins, c'est pas dans le sens de kidnapping. Si vous rencontrez par exemple un ADF, vous êtes parti. Donc c'est une entité très compliqué. Les journalistes travaillent dans des conditions très difficiles et pour cela, il est le 3 mai, la sous-section de l'INPC dans la ville de Beni territoire, nous tenons à encourager, à féliciter ces braves journalistes qui travaillent dans des conditions très difficiles, surtout avec l'état de siège, une situation très complexe, une situation exceptionnelle dans laquelle des fois on vous dit de ne pas trianguler l'information parce que comme c'est exceptionnel, les journalistes qui n'est pas au-dessus de la loi, ils ne peuvent pas par exemple remettre à cause les chiffres ou les bilans que les militaires donnent. Voilà un peu des difficultés qui existent. Si vous allez, vous faites le forcing, des fois il y a des interpellations, quelques intimidations, mais bon, il y a quand même une collaboration qui est là, sauf quelques cas exceptionnels où les journalistes sont misélés, pas de liberté.
Dans quel domaine les journalistes de Beni doivent-ils encore progresser pour permettre une bonne intégration de cette liberté de la presse pour qu'elle ne puisse pas virer vers un libertinage?
Alors moi, j'encourage beaucoup plus le journalisme sensible au conflit. C'est vraiment une branche de journalisme qui aide beaucoup plus la communauté à se développer dans la guerre. La difficulté est là, les gens souffrent, mais est-ce qu'il faut beaucoup plus chaque fois rappeler les gens qu'ils souffrent? Je ne pense pas. Il faut essayer de chercher dans cette communauté qui souffre les gens qui sont résilients, qui se développent, voir dans quel secteur ils se développent et essayer de faire la promotion. Moi, je pense que les gens désespèrent des fois, c'est à cause de médias. Quand les médias ne cherchent toujours à amplifier le sang, la souffrance, la population pense que il n'y a pas de porte de sortie et les gens deviennent, se sentent inutiles dans la communauté et c'est compliqué. Chercher des éléments qui peuvent unir des gens, que des choses qui divisent beaucoup plus les gens sur le plan communautaire. Tout ce qu'on peut conseiller aux journalistes, c'est amener seulement aux journalistes de rester responsables.
Quel mécanisme vous vous mettez en place pour que régulièrement les journalistes soient responsables de ce qu'ils vont diffuser comme contenu dans leurs médias?
Nous faisons des audits, donc on essaie d'écouter beaucoup plus les diffusions dans différents médias, essayer un peu d'analyser, et si on trouve qu'il y a des dérapages, page, on essaye d'appeler les responsables ou certains journalistes individuellement. Et si on trouve que c'est récurrent, on réunit tous les journalistes à travers une séance de formation pour essayer de recadrer les choses de manière pratique. Alors, pas seulement du côté des journalistes, mais aussi du côté des acteurs de protection, on a souvent le temps de remonter les alertes, mais aussi de faire des visites dans lesquelles on essaye d'échanger. Cela fait à ce que jusque-là, il n'y a pas vraiment beaucoup plus d'incidents que l'on a résisté dans le cadre de la collaboration entre nous, journalistes, et les acteurs de protection. Et sur le plan pratique, on est très vigilant sur le contenu de médias, parce qu'il ne faut pas dire que tous les journalistes sont des saints. Dans des cadres d'échange, on essaie toujours d'aider les journalistes à ne pas faire de confusion entre les métiers qu'ils font et, par exemple, la politique ou le militantisme qui s'invite de temps en temps dans le journalisme actuellement, mais aussi à Beni en particulier.
Moustapha Moulonda, merci.
C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.